Aujourd'hui, je voudrais ouvrir ma Bible avec vous dans le livre de Marc, l'évangile de Marc au chapitre 10. L'évangile de Marc au chapitre 10, on lira simplement quelques très courts versets pour introduire ce message de ce matin. L'évangile de Marc au chapitre 10. Au verset 13, Marc 10, verset 13. Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, il posa la main sur eux et les bénit. Et un petit peu plus loin, ne cherchez pas, mais dans l'évangile de Luc, chapitre 17, il est dit, Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de péché. Mais malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un, mieux vaudrait pour lui être précipité dans un lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute d'un de ses plus petits. J'étais interpellé cette semaine, j'étais dans une synagogue, j'ai rencontré le président du consistoire de la synagogue de Créteil et j'étais à côté d'une personne que je ne connaissais pas et qui en un repas est devenue mon amie. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'en parlant avec ce juif pratiquant, très impliqué dans la ville et puis dans sa communauté également, je lui disais que cette église grandissait de façon incroyable et que l'on était maintenant à trois cultes, qu'on était plus proche de 600 personnes maintenant que de 500. Et il me dit, mais comment vous faites? Et moi, j'étais fier de dire, mais vous savez, nous les évangéliques, il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est des militants. C'est qu'on ne peut pas être tiède. Parce que si on est tiède, on décroche. Soit on est à fond, soit on ne l'est pas. J'ai dit, et les personnes qui rencontrent Jésus, ça bouleverse leur vie ou ça ne le bouleverse pas. Mais ceux pour qui il y a vraiment une rencontre avec Dieu, ils changent du tout au tout. Et ils deviennent vraiment des personnes qui ont soif, faim de Jésus. Elle me dit, ah, c'est incroyable ça. Elle me dit, mais ça veut dire que des personnes adultes. Je lui dis, oui, les baptêmes, c'est adulte chez nous. Elle dit, ben nous, je ne comprends pas comment vous arrivez à avoir un tel résultat. C'est extraordinaire parce que nous, on arrive à grandir, mais d'une autre façon. On prend soin de nos enfants. Et j'ai pris une claque quand il a dit ça. Il dit, nous, on a des écoles pour nos enfants. Nous, on sait que c'est tellement plus dur de les gagner quand ils sont adultes qu'on préfère leur inculquer dès qu'ils sont petits. La loi de Dieu. Et je me suis dit, on est vraiment, vraiment pas sage lorsqu'on délaisse nos enfants. Et le thème de ce matin, c'est vous pouvez arrêter un massacre. Et le massacre, on le voit parce qu'il y a un massacre qui est décrit dans la Bible, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, et c'est le texte que je vais étudier avec vous ce matin. Il y a un massacre en cours, ça peut être choquant comme terme, mais il y a un événement qui se passait au temps de Jésus. Tout le message de cette matinée va concerner les parents de Jésus. Mais on va, pour une fois, oublier que Jésus, c'est Jésus. Et on va prendre Jésus comme il est, c'est-à-dire comme un enfant, là. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe et comment des parents, il y a des parents dans cette salle, il y a des papas dans cette salle, il y a des mamans dans cette salle, mais il y a des tatas dans cette salle, il y a des oncles, vous avez des neveux, vous avez des nièces, et vous pouvez sauver un enfant. Après leur départ, au verset 13, Matthieu 2, verset 13. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Verset 14. Joseph se leva et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Et quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages à l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit, et d'abondants sanglots amers, Rachel pleure ses fils. Elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. C'est difficile de dire amen dans ces cas-là. Mais je peux vous dire, c'est qu'il y a un massacre en cours. Alors, il y a 3 choses que je veux voir. C'est dès la naissance, dans l'adolescence et dès le début de leur vie adulte. Je suis conscient d'une réalité, c'est que les familles sont de moins en moins des familles. Et que beaucoup d'entre vous, et je parle notamment à des mamans célibataires, le problème c'est qu'il y a des enfants, mais il n'y a pas forcément le papa qui prend son rôle. Et pour ceux qui forment un couple dans cette salle, qui ont un mari, un conjoint, qui partagent les mêmes valeurs, regardez ce que dit la Bible. C'est qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph et lui dit dans un rêve, j'aimerais que les pères prennent enfin leurs responsabilités. Je crois que trop souvent, Dieu voudrait nous interpeller. Et il y a des papas, il y a des oncles, il y a des cousins, vous connaissez, vous êtes un homme, Dieu peut vous parler. Vous avez une responsabilité en homme pour prendre des responsabilités. Et Joseph eut cette vision de l'ange et se leva dans la nuit. Il prend ses bagages, il n'a même pas le temps de les plier, il n'a pas le temps de ramasser le matelas, il prend tout, il dit on part, on fuit parce qu'il y a un danger de mort. Il prend la mère, il prend l'enfant. Il est temps que tu te bouges. Je voudrais te dire aussi qu'il y a quelque chose de très net, c'est que Hérode, le diable, est après vos enfants. Il y a vraiment un combat spirituel derrière. Ce que vous considérez être comme des difficultés de la vie, je peux vous dire, c'est que le diable est plus malin que vous et il sait que les années, le début de la vie, pour les petits gars, les petites filles qui naissent, que Dieu vous confie ou que Dieu a confié à quelqu'un dans une famille qui est proche, à qui vous pouvez parler, le diable est après eux. Je réalise que ce triste mois-là, il y a des enfants de moins de 2 ans qui sont morts à Rama. Et c'est toujours pareil, c'est les mamans qui pleurent. Je suis à la fois dans la compassion, dans l'empathie, et à la fois dans la frustration quand j'entends toutes ces mamans qui prient pour que leur enfant revienne à Dieu. Alors je suis avec toi, ma sœur, parce que je compatis, je sais la difficulté que c'est. Mais je voudrais dire à toutes celles qui ont des enfants qui sont encore jeunes et qui sont avant l'âge de l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se jouent maintenant. Parce que si on les perd quand ils sont jeunes, il y a des mamans, il y a des Rachel qui pleurent derrière. Et après, vous pouvez passer des années et des années à essayer de pleurer et à supplier Dieu de ramener, de faire quelque chose. Mais il y a beaucoup... Le tournant, il est avant l'adolescence. Il est avant l'adolescence. À 2 ans, Hérode est malin. Il a dit, à 2 ans, c'est terminé. Vous ne vous rendez pas compte comment le diable les prend beaucoup plus tôt que vous pensez. Hérode aurait pu dire, on va attendre qu'ils soient majeurs, et puis après on interviendra. Non. Hérode, il dit, c'est maintenant. Je termine tout de suite. Tout ce qu'on peut tuer maintenant, on les tue maintenant. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Il y a des périodes plus faciles. Vous allez avoir des périodes où vos enfants vont être vraiment l'objet d'attaques et le diable veut vraiment leur peau et la mentalité de ce monde et ce qu'ils vont regarder à la télé et leurs copains d'école. Ils vont avoir une pression. Ça ne sera pas une pression constante. Il y a des vagues, il y a des moments où c'est beaucoup plus dur. Là, apparemment, par rapport à Joseph, il y a une période où il y a moins de pression extérieure contre l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père. Il eut donc peur de s'y installer et, averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée. J'espère qu'il y a encore des papas qui mettent en second point, en second plan, leurs rêves, leur carrière et l'endroit où ils aimeraient être pour privilégier leurs enfants. Je voudrais vous dire, c'est que je pense que Joseph n'avait pas envie de s'installer à Nazareth. Nazareth, c'est un endroit paumé où il y a une garnison romaine, plutôt dans le nord d'Israël, en Galilée. Joseph, monsieur Joseph, il est né, c'est une personne de Bethléem, c'est des personnes du centre d'Israël, ils ont des valeurs. On va dire que dans la famille de Joseph, c'est vraiment le cœur historique des personnes pratiquantes qui aiment Dieu, comme peut-être Dieu t'a permis que tes parents, tes grands-parents soient des personnes de Dieu. Et c'est le cas pour la famille de Joseph, ils ont vraiment des valeurs très fortes, mais il se dit, ma carrière vaut moins que le salut de mon fils. Je suis plus tranquille de m'installer près de Jérusalem ou près de Bethléem, mais puisqu'il y a un endroit dangereux ici pour mes enfants, je bouge. Oh, combien d'entre vous sont prêts à dire, je vais prioriser sur ma carrière un environnement où mon fils ou ma fille pourra avoir plus d'accès à l'évangile. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, mais mon papa a fait un choix à un moment qui était très, très net. On a vécu des moments extrêmement difficiles dans une église où notre salut aurait pu être en danger. Et mon père a eu une offre de carrière qui était géniale. On lui proposait un meilleur poste de professeur de faculté dans une ville qui était Rennes. Et il y avait la tentation d'y aller, il y avait la tentation de se dire, bon, c'est mieux. Mais lorsqu'on a vu le groupe de jeunes et qu'on a vu qu'il a considéré l'âge que j'avais, qu'il a considéré l'âge de mon petit frère, il s'est dit là, attention, il y a un défaut par rapport à la possibilité pour mes enfants dans cette ville de pouvoir grandir avec Dieu. C'est comme ça, il y a des périodes, il s'est dit, j'ai vu une autre ville dans laquelle il semble. C'est à vous de savoir ce que Dieu vous révèle, d'accord ? Je ne prétends pas que c'est carré, c'est à vous de rechercher Dieu comme Joseph a recherché la présence de Dieu pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est dans cette ville que je dois y aller ou pas ? C'est votre rôle de père, c'est votre rôle de mère, vous prenez vos responsabilités. Mon père a cherché, il dit, je pense que cette ville de Brest est mieux, parce qu'il y avait des camps, parce qu'il y avait des colos chrétiennes. Il dit, si je perds mes enfants, à quoi ça me sert d'être prof de fac quelque part ? Et il a fait ce choix, et aujourd'hui je suis là parce qu'il y a un père qui a dit, voilà, je prioriserai la vie de mes enfants sur ma carrière. C'est des choses simples. Après, ça évite de pleurer beaucoup dans l'avenir. Hein. Et puis, je termine. Regardez ce qu'il est dit au verset 23 par rapport à ce point-là. Donc, il se retira dans la province de Galilée. Il n'a aucune envie d'y aller parce qu'il n'a pas d'attache en Galilée, Joseph. Il s'y installa dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes. On l'appellera le Nazaréen. Je voudrais vous dire, c'est que Dieu sait où vous devez aller. Et c'est déjà écrit dans le plan de Dieu. Dieu a déjà un plan pour savoir si c'est à Créteil, si dans telle ville, dans quelle église. Cherchez la face de Dieu. Parce qu'en fait, Joseph ne savait même pas, mais il accomplissait par là ce qui était écrit dans l'Écriture. Il sera appelé un habitant de Nazareth. Maintenant, je voudrais dire un deuxième point. Je vais essayer de creuser en profondeur. Je peux vous dire une chose. C'est que Joseph ne sera pas un Nazaréen. Comprenez ce que je veux dire. Jésus sera Nazaréen, pas Joseph. Le lieu dans lequel vous allez va impacter votre enfant plus que vous. Je continue, je vais en plus en profondeur. Vous avez fait des expériences avec Dieu quand vous étiez au pays. Pour certains, en Guadeloupe, vous êtes allé dans une église, ça a touché votre cœur, vous avez vu Dieu, vous avez vu des miracles, vous avez vu quelqu'un qui a ouvert les yeux à côté de vous, vous venez d'Afrique, vous avez été à Kinshasa, vous avez vu un rassemblement où il y avait la gloire de Dieu, et vous avez fait vos expériences avec Dieu. Mais vos enfants, eux, ils étaient trop petits, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas le passé, l'histoire que vous avez avec Dieu. Ils n'ont pas été au rassemblement de Billy Graham pour ceux qui ont été. Et quand vous leur en parlez, ils disent, c'est cool papa, mais je ne comprends pas. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que Jésus n'aura pas la culture de Bethléem. Il n'aura pas la culture de la maison du pain. Jésus sera appelé Nazaréen, il sera de là où vous allez l'éduquer. Donc ne pensez pas que vous allez amener toute votre histoire et tout votre passé et que ça, rien que votre histoire va sauver votre enfant. Parce que votre enfant va devoir faire sa propre histoire. Il va devoir rencontrer son propre Seigneur et dans un milieu qui était plus dur que toi, Joseph.
Parce qu'au moment où Jésus va naître, et au moment à Bethléem, et puis ce qui va se passer par la suite, et puis l'emprise romaine qui augmente, et puis le climat est de plus en plus dur. Les papas de Joseph l'ont élevé tranquille, je pense. Mais Joseph, lui, va avoir beaucoup plus de difficultés pour élever Jésus. Je vais plus loin. C'est étonnant parce qu'il ne suffit pas pour être un papa, il ne suffit pas pour être un maman de dire « je l'ai sauvé ». On fait le maximum pour les sauver. D'accord ? Mais être parent, c'est plus que ça. Être parent, c'est vouloir le meilleur pour l'enfant. Vous pouvez l'amener, le protéger de Hérode en lui évitant la mort, mais ce n'est pas le tout. Après, en choisissant Nazareth et puis en choisissant ce que vous allez lui donner chaque jour comme valeur, vous allez le porter au maximum vers le meilleur. Mais il faudra un choix personnel. C'est étonnant parce que c'est juste le verset d'après. Il est dit au chapitre 3 de Matthieu. Au verset 1er, il dit « En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée et il disait « Changez !» car le règne des cieux est proche. » Je vais un peu plus loin, verset 7. « Beaucoup de pharisiens, de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur disait « Espèce de vipère !» Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même. Nous sommes des descendants d'évangéliques. Nous sommes des enfants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Et c'est vrai! Ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu va appeler des personnes, et c'est là où on a une différence profonde avec peut-être ce que vous appelez des religions, ce que j'appelle des religions. Parce que les religions, lorsqu'on est catholique, à la naissance, ils vous mettent un petit logo, un petit hop, tu es baptisé, ping, t'es catho, bienvenue dans le club des cathos. Quand vous êtes musulman, il suffit d'une prière et t'as le label, t'es musulman. Il y a eu la prière, c'est fait, t'es musulman par culture. Ta maman est juive, tu es juif par culture, c'est tout, c'est fait. Comprenez que les religions, elles essayent de dire, voilà, je mets le logo, j'estampille dessus, il est catholique, il est musulman, il est juif. Mais je suis au regret de vous dire que votre enfant, vous ne pouvez pas mettre le logo, il est évangélique, il est chrétien, parce que ce n'est pas vous qui pouvez mettre le logo, c'est est-ce qu'il va rencontrer Dieu. Alors votre seul job, et il est extrêmement complexe, c'est de tout faire pour lui donner la possibilité de changer de vie et de rencontrer Jésus par le baptême. Parce que sinon, Dieu en prendra d'autres. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on vient pas de famille chrétienne. Parce que Dieu vous a dit, ok, tu n'étais pas né dans la bonne famille d'Abraham, mais moi, bienvenue dans la famille des évangéliques. Et le jour où tu prends ton baptême, il y en a certains, ils viennent de nulle part. Et je suis ravi parce que, finalement, dans cette église, on baptise très peu d'enfants de chrétiens. Et c'est génial, parce que Dieu donne une chance aux autres. Mais maintenant que tu es baptisé, s'il vous plaît, priorisez vos enfants. Et il n'y a rien de scandaleux là-dedans, parce que ton premier service, c'est ta famille. Celui qui n'aime pas les siens est pire qu'un infidèle, dit la Bible. Il va falloir que vous mettiez le paquet pour que vos enfants, vos fils et vos filles rencontrent Dieu. Alors, je ne vais pas m'attarder, je passe peut-être un peu de temps, mais Lévi Petrus disait, Dieu n'a pas de petits-enfants. Il a des enfants ou rien du tout. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il a soit des enfants, soit il n'a rien du tout. C'est-à-dire que votre fils, votre fille, vous ne pouvez pas lui dire, je vais lui donner ma culture et ça va suffire. Parce que s'il ne change pas, évangélique ou pas. Moi, je suis étonné parce que dans les prisons en France, dans les jeunes qui sont les... Il y a plein d'évangéliques. Il y a plein de musulmans aussi. Il y a plein de juifs. Il y a plein de personnes qui ont une étiquette de soi-disant « j'ai respecté une loi, des principes, des valeurs, une morale ». Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut une conversion, mes amis. Il faut une conversion. Je suis désolé, je vais peut-être vous choquer, mais c'est quelqu'un d'extérieur ici qui me l'a dit, donc je suis libre. Mais vous savez, on a organisé un week-end au Térébinthe pour nos enfants. C'est-à-dire qu'on s'est dit, et c'est une des raisons de l'Église pour laquelle on dit, voilà, nos enfants, priorité, on va financer, on va aider, on va baisser le prix. L'Église prend plus de la moitié. L'Église a pris 70% du prix à sa charge pour que des mamans, parce que c'est cher d'organiser des week-ends. Pourquoi c'est cher ? Parce qu'il y a la nourriture, il y a le transport, il y a les jeux, il y a le fait de financer aussi les personnes qui vont prendre soin. S'il y a des pasteurs, s'il y a des personnes qui se déplacent, etc. C'est très cher. Quand vous avez un coût à 40 euros par enfant, la vérité, c'est 120 euros. C'est 80 euros, c'est 100 euros, mais c'est jamais 40 euros. Pourquoi ? Parce que l'Église investit. Bon, et je vais plus loin. Moi, je remercie tous les monos qui ont donné leur temps, c'est-à-dire qui ont brûlé leurs vacances pour que vos petits puissent passer du temps à entendre Dieu. Je vais plus loin. Il y avait dans cette, je ne sais pas qui, je ne veux même pas savoir qui. Il y avait un enfant qui était très pénible et à un moment, le mono lui dit « Maintenant, tu arrêtes. » Parce que tu es impoli, tu manques de respect, etc. Et l'enfant, il répond en disant que ça. « Ta mère, tu ne peux pas me virer. Je m'en fous, ma mère a payé. » Et c'est normal, parce qu'il n'est pas converti. C'est un gosse d'évangélique. Eh bien, c'est un enfant comme les autres. Bien sûr que c'est scandaleux. Bien sûr que l'enfant, il dit... Mais... Et le mono, il a regardé en face, mais juste choqué. Mais ce n'est pas parce que votre enfant est évangélique qu'il est bien. Tant qu'il n'a pas rencontré Dieu, c'est un pécheur comme les autres. Alors votre seule prière et vos seules actions, c'est de l'aider à rencontrer Dieu. Allez, on termine avec un dernier texte. C'est dans Luc, au chapitre 2. Si vous êtes encore là, vous avez soit le droit de dire amen, soit le droit de dire rien du tout. Mais au verset 21 du chapitre 2 de Luc, pardon, verset 41. Luc 2, 41. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Je trouve ça incroyablement riche. Moi, ce texte, je trouve extraordinaire, je trouve génial. Parce que là, il y a dedans tous nos défauts là-dedans. Et à la fois notre force et à la fois nos qualités. Vous voyez, très vite, après quelques années, on va à l'église et on va à Jérusalem, par habitude, mais c'est très bien. Et les enfants, vous voyez, suivent, et je pense que Marie et Joseph sont hyper sincères, ils disent, voilà, on aime la fête de la Pâque, on aime le dimanche aller à l'église de Créteil, c'est extra, on va donner dans le louange et tout. Et ils sont dedans, ils sont respectueux à Dieu, ils font l'effort, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que leur gamin a grandi. Et je voudrais vous dire, 12 ans, c'est l'âge clé pour un garçon. Je ne sais pas, il y a des femmes dans la salle, vous devez me croire sur parole. Je peux vous dire, 12 ans, c'est l'âge clé pour un garçon. Parce qu'après 16 ans, entre 12 et 16 ans, c'est les années collège, là, le 11, 12, 13, 14, 15, 16, début du lycée, c'est là où tout bascule. Après, il vous faudra 10 fois plus d'efforts pour le même résultat. Parce que c'est là où le garçon dit, mon idéal, ça sera ça. Et si son idéal, c'est le caïd de cité, c'est foutu pour vous. Vous allez en prendre pour 20 ans derrière. Si son idéal, c'est de faire de l'argent, vous allez le perdre là. Si son idéal, c'est d'être un homme de Dieu comme papa, ah, vous avez une chance. Si son idéal, c'est d'avoir un caractère sanctifié, parce que vous êtes sanctifié, que vous êtes sa maman, il dit « Maman, elle a des valeurs, j'aime trop ça, je vais être comme elle », c'est gagné. C'est en grande partie gagné. La quatrième, je ne sais pas, vous avez des enfants quatrième, tous ceux qui ont des enfants quatrième, écoutez ça ce matin. La quatrième, c'est la clé. La quatrième, c'est la clé. Quatrième, troisième, c'est la clé. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour. Donc, sortis de l'église le dimanche matin, ils prirent le TVM ou leur voiture pour rentrer chez eux. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Et arrêtez de croire que les autres vont prendre soin de votre enfant. Et arrêtez de croire qu'il suffit de le déposer dans la salle verte pour dire « il se convertira plus tard ». Et arrêtez de croire parce que vous l'avez amené à l'école du dimanche, vous avez fait le job. Et arrêtez de croire parce que vous avez juste mis 40 euros de plus pour lui permettre d'avoir un week-end, ça suffit et que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin en tant que maman. C'est pas vrai. En tant que maman, vous avez un rôle clé. Arrêtez de croire que quelqu'un d'autre va l'instruire dans la voie qu'il doit suivre et que plus tard, il s'en détournera point. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre le fera. Ou ce que les autres feront ne vaudront jamais ce qu'un papa dira, ce qu'une maman dira. Ne compte pas sur les autres pour t'occuper de la santé spirituelle de tes enfants. Je crois qu'on considère l'église des fois comme on considère le collège. C'est clair qu'au collège, vous n'allez pas lui apprendre les maths. Il y a un prof qui est payé pour lui apprendre les maths. D'accord ? Eh bien, je peux vous dire que la personne de l'école du dimanche, elle n'est pas payée pour lui apprendre Jésus. Le professeur de maths et les autres professeurs, ils ont 26 heures par semaine pour lui inculquer des choses qui sont indispensables et que je valorise, c'est des choses indispensables. Vous imaginez combien d'heures il va passer avec ses copains de classe ? Et quand vous traînez, vous allez à reculons à l'église parce qu'il y a 1h30 le dimanche. Pourquoi le samedi après-midi ? Est-ce que c'est vraiment essentiel pour mon ado ? Bah écoutez, c'est simple. Ça veut dire que vous le demandez à Dieu, vous laissez 1h30 à Dieu pour toucher et faire autant d'effets que 26 heures en face avec des personnes qui ne cherchent absolument pas Dieu et qui vont lui dire « mais c'est n'importe quoi ton histoire de Dieu ». Alors votre enfant, il a intérêt d'avoir une super base pour pouvoir se dire « les 1h30 vont plus m'impacter que les 26 heures ». Sans compter avant, après le lycée où ils restent ensemble en train de traîner, etc. On se bat à armes inégales, mais le combat est en votre défaveur. C'est pour ça que je dis qu'une maman qui, et je suis désolé, ça va être un peu violent ce que je vais dire, mais une maman qui ne prend pas la peine, lorsque votre fils a 8 ans, de lire une histoire de Dieu ou de partager son témoignage personnel régulièrement, je veux dire plusieurs fois par semaine, vous êtes inconsciente. Vous êtes inconsciente. Et toutes les heures que vous ne faites pas entre 8 ans et 16 ans, vous les ferez dans la prière entre 40 et 80 ans. Moi, je peux vous dire, il vaut mieux passer. Vous êtes fatigué, vous êtes crevé, vous êtes une maman, je vous admire parce que vous avez des ressources et des énergies, mais bon, à un moment, vous êtes fatigué quand même. Mais prenez le temps, lorsque votre fils a 12 ans, pour lui parler sexe. Parce qu'au collège, ils l'ont déjà fait. Arrêtez de croire que votre enfant est un tout petit. Les parents de Jésus, ils me font rigoler, mais c'est comme tous les parents. Je suis sûr que je serai pareil avec Ethan et vous me referez ma prédication dans 10 ans, quand Ethan aura 12 ans. Mais les parents, ils voient Jésus comme un petit gamin, quoi. Oh ben il a 12 ans, il est tranquille, qu'est-ce qui va se passer ? 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres, ils les écoutaient, leur posaient des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Mais ses parents, ils furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, mais mon enfant, mais pourquoi nous as-tu fait cela ? Mais elle est larguée, la maman. Mais elle est larguée, mais comme la plupart d'entre nous. Mais quelle chance, quelle grâce que ça soit Jésus et qu'il soit en train d'écouter et de regarder, d'enseigner la Torah et d'essayer de comprendre. Super, il y en a quelques enfants parmi nous comme ça. Ben, vous avez beaucoup de chance, vous les parents. Mais la vérité, c'est qu'il y a très peu d'enfants comme Jésus. Alors comprenez que tu penses qu'il est trop petit pour voir Dieu agir. Mais je peux te dire une chose, à 12 ans, il n'est pas trop petit pour regarder des clips porno sur Dailymotion. Ah, mais il ne va pas comprendre le culte. Oh, t'inquiète pas avec ses collègues. Lorsqu'il est au collège, il comprend très bien certaines choses. Oui, mais comment veux-tu qu'il goûte la présence de Dieu ? Il peut très bien goûter la cigarette, d'ailleurs, tu ne le sais même pas. Alors, il goûte beaucoup plus que tu crois, il comprend beaucoup plus que tu crois, il voit beaucoup plus que tu crois. Sauf que t'es papa, t'es maman, alors du coup tu dis « Oh mais dis donc, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je pensais pas que... » Eh ben non, il a grandi. Votre fils, votre fille, Je ne vais pas dire que c'est tout écrit, parce que ce n'est pas vrai. Il y a une partie qui ne vous appartient pas. Il y a une partie, c'est des choix personnels. Il y a des parents dans cette salle, et je ne vais pas vous culpabiliser. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, et malgré ça, vos enfants, mais c'est rare, n'ont pas choisi Jésus. Mais c'est rare. Et je crois que dans ces cas-là, vraiment le verset s'applique, parce que tu as été fidèle. Et je crois qu'il y a une grâce de Dieu, et que Dieu suivra ton fils. Parce que tu as fait tout ce que tu as pu. Je crois que Dieu suivra ta fille. Mais moi, je suis persuadé que mon enfant sera infiniment plus malin que je le pense. Je vois, et à 2 ans et demi, c'est un manipulateur déjà. Il sait exactement comment obtenir ce qu'il veut. Il voit que maman a préparé des carottes avec de la béchamel. Il fait « Je veux pas !» Et puis il va voir papa et il dit « Papa, ça, bisous !» Mais il a 2 ans et demi à 12 ans. Vous croyez que l'enfant, il ne lit pas quelles sont vos priorités? Vous croyez que l'enfant, il ne sait pas pourquoi tu dis « Ah, mais je vais te payer le club de danse, je vais te payer le foot, etc. » et que tu n'es pas prêt à l'amener le samedi. Il dit « Maman veut que je sois un footballeur !» Ben, je vais être un footballeur. Puisque maman est prêt à payer pour que je devienne un pianiste, ben, je vais devenir un pianiste. C'est que pour maman, c'est plus important que je sois pianiste que je sois chrétien. Ah mais non, ah mais si, maman, c'est que dans tes faits, c'est ce qui se passe. Mais c'est super, ben, je ne dis pas qu'il ne faut pas amener au foot, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du sport, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la musique, si. Mais si tu fais ça, tu as intérêt d'être riche et d'avoir plein de moyens. Parce que non seulement ça coûte cher, mais tu as intérêt de continuer à prioriser l'aspect spirituel. Parce que si c'est aux dépens de l'église, tu es à côté de la plaque. Marie et Joseph, ils étaient tranquilles, ils étaient en train de se penser, oh ben c'est l'autre qui s'en occupe, c'est l'autre qui s'en occupe, c'est l'autre qui s'en occupe. Et personne s'en occupait. Et personne s'en occupait. Et ils ont mis 3 jours à le comprendre. Je suis arrivé à ma conclusion, parce que l'heure passe et... Je voudrais vous dire, il y a des choses que vous pouvez faire. Et c'est faisable. C'est faisable. Il y a des choses qui se passent à la maison. À la maison, en tant que maman, même une maman célibataire. Des mamans célibataires peuvent donner des enfants extraordinaires. C'était il y a 2 semaines qu'on a entendu Éric Sellerier. Il nous a dit, voilà, j'ai grandi sans mon papa. Aujourd'hui, il est président du Top Chrétien. Il y a des millions de personnes qui se connectent chaque jour à connaître-dieu.com parce qu'il y a une maman célibataire qui a su compenser. Bravo! Donc c'est faisable, c'est faisable. Mais c'est une question de choix, c'est une question de valeur, c'est une question de... Il faut prendre le temps et vous devez compenser avec, je ne sais pas moi, vous achetez la Bible en bande dessinée, vous achetez des DVD en priorité, les DVD de Joseph, les DVD de Moïse. C'est idiot ce que je vous dis, mais bon, ça devrait juste être tellement naturel qu'on l'oublie. Je ne dis pas qu'il faut lui interdire le reste. C'est pour ça que des enfants, ils craquent, des fois ils disent « La vie chrétienne, c'est des noms, c'est des noms, c'est des noms. » Mais non, c'est l'inverse. C'est vous devez valoriser ce qui est de Dieu. Et dire « Ah, si jamais le budget pour Noël, c'est 20 euros, et ben si c'est chrétien, tu as 25 euros. Enfin, » je provoque, là, je prétends pas être rempli de l'onction quand je vous dis ça. Mais c'est juste du bon sens pour vous dire « Vous communiquez quoi comme information à votre fils ? Vous en communiquez quoi ?» Et puis il y a des choix, c'est à l'église. Votre enfant va lire, est-ce que pour l'église, maman est une, enfin, c'est une priorité pour elle, est-ce que pour papa c'est une priorité? J'ai pas envie d'aller à l'école. Ben, Ethan, tu vas y aller quand même. Hein. Parce que sinon tu seras nul en maths plus tard. Si Ethan me dit je veux pas aller à l'école alors qu'il a 7 ans, je lui dis tu rigoles ou quoi? Au petit bonhomme là. Moi j'ai pas les moyens de faire des cours particuliers de physique. Hein. Donc quand tu seras au collège, tu commences la physique, c'est tout. Si votre enfant dit « Je ne veux pas aller à l'église le dimanche matin. » Bon, bah reste avec ton père alors. Ah, mais alors c'est lequel? Parce qu'il en a deux des pères. Hein. Il y en a un qui est céleste, il y en a un qui est terrestre, vous choisissez. Hein. Aidez-le, je vous en supplie. Aidez-le. Aidez-le à s'impliquer dans le service. Quand je vois Marie à Cana, il s'est passé un truc incroyable. Sans faire exprès, elle a lancé Jésus dans le service. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Jésus disait « Mon heure n'est pas venue. » Et au final, bah, il a fait le miracle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une maman qui dit, écoutez-le, laissez-le faire. On a un petit problème de vin, là. Laissez-le gérer. Et incroyable, Jésus va le faire. Après, un peu plus tard, Marie va voir Jésus parce qu'elle essaye de l'arrêter. Parce que Jésus est en train de dire des choses qui sont tellement fortes. Il est en train de parler du salut. Il est en train de dire, voilà, vous ayez une relation personnelle avec Dieu. Et puis, je crois, la résurrection. Et là, il y a les pharisiens, ils sont fous de rage. Et Marie, elle a peur pour Jésus. Alors, avec ses frères, ils envoient une délégation. Marie, puis les autres frères de Jésus, ils viennent pour arrêter Jésus, pour lui dire, hé, oh. Et Jésus lui dit, mais t'es à côté. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi. Un frère, une sœur, une mère. Soyez-le pour vos enfants. Soyez-le pour vos neveux. Soyez-le pour vos nièces. Passez du temps au téléphone avec eux. Favoriser leur croissance spirituelle. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, on te prie pour nos enfants. Parce qu'on n'a pas la force en vrai. On n'a pas les moyens, on n'a pas les écoles. Seigneur, je suis tellement frustré, on n'a pas le temps, il y a tellement d'heures en dehors, on a très peu d'heures dans l'église. Seigneur, compense. S'il te plaît, compense à nos faiblesses. Touche nos jeunes, particulièrement nos gars, Seigneur. Seigneur, je te prie que ce massacre qui est en cours sur nos jeunes gars au collège s'arrête. Qu'il y ait ici des mamans qui se lèvent qui disent « Vous n'aurez pas mon fils. » Qu'il y ait ici des papas qui se lèvent qui disent « Vous n'aurez pas mon fils. » Seigneur, quand je réalise qu'il y a plus d'un gars évangélique sur deux qui se détourne de Dieu à la fin du collège, je dis « Seigneur, je veux que ça s'arrête. » Seigneur, que dans cette église, ça s'arrête. Qu'au lieu toujours de gagner de l'extérieur, on puisse au moins sauver les nôtres. Seigneur, je suis tellement heureux de baptiser des personnes qui viennent de l'extérieur parce que c'est des enfants d'Abraham que tu t'es choisi. Mais je t'en supplie, sauve les nôtres aussi. Sauve les nôtres aussi. Seigneur, on veut double. On veut pour les nôtres et on veut pour les autres. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Peut-être vous n'avez pas d'enfant à titre personnel, mais vous avez un neveu, vous avez une nièce, vous avez un cousin, vous avez un garçon de 12 ans, un garçon de 14. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Est-ce que dans cette salle, je peux entendre, alors que les musiciens sont sur le devant, mais qu'il y ait, vous, prenez vos responsabilités dans les rangs, là. Commencez à prier, Seigneur, je te prie pour un tel. Et murmure le prénom de l'enfant que tu veux bénir ce matin. T'en as plusieurs, peut-être. Prie pour plusieurs, alors. Plus t'as d'enfants, c'est que plus ton appel est grand dans ce domaine-là. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur. Alléluia. 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 Oh. Je rêve qu'il y ait un peuple uni. Je sais que je le fais pas parce que je suis pas quelqu'un de très à l'aise là-dedans, mais est-ce que exceptionnellement on peut se donner la main le dimanche matin et faire comme une chaîne pour dire l'Église c'est toi, l'Église c'est moi, l'Église c'est ton fils, c'est mon fils, c'est ta fille, c'est ma fille. Je prie Seigneur pour qu'il y ait des monos qui se lèvent pour Dieu, qu'il y ait des personnes qui se lèvent en disant voilà la priorité maintenant dans ma vie, ça sera que y ait les, même si j'ai pas d'enfants à titre personnel, mais je veux toucher les enfants des autres, je veux sauver. Alléluia Seigneur. Seigneur, alléluia. Alléluia. tend nos cœurs vers toi. Seigneur, pour nos enfants qui ne sont plus là pour l'instant, pour nos enfants qui ne sont pas convertis, Seigneur, pour l'instant, on demande la grâce de Dieu parce qu'on a entendu et on a vu des témoignages de personnes qui ont récupéré ces enfants. Alors on te demande, Seigneur, que par tes cordages d'amour, tu les retires à toi, tu les rattrapes. Seigneur, s'ils sont tombés dans des pièges de l'adversaire, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, va les chercher, Jésus. Ton esprit est capable de toucher tout le monde ici et là-bas. Et Seigneur, on veut leur salut, on veut le salut des nôtres. Va chercher cette jeune fille qui est partie loin de toi. Va chercher ce garçon qui a tout abandonné de la Bible. Va le chercher, Seigneur. Va les chercher, Seigneur. Va chercher les nôtres qui sont loin de toi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia Jésus, à toi la gloire pour les choses que tu vas faire.
Alléluia, 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 Alléluia. Que des montagnes jusqu'au palais, nos cœurs s'élèvent en louange. Que de tantôt jusqu'aux nations, des gens remplis. Et nos maisons remplies de danse. Que la justice soit déployée.
Alléluia Jésus.
Et que ton peuple se tourne vers toi. Que tes montagnes jusqu'au vallée. Que ta gloire remplisse la terre.